Merci d'être à l'écoute d'Au quotidien. On est ensemble jusqu'à 11h30. Chronique de psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière. Bonjour, Roxane.
Bonjour, Hélène. Ça va bien?
Oui, oui, ça va bien. Vous avez l'air en forme.
Ben oui.
Alors, Roxane, je vous présente en bonne et due forme. Vous êtes professeure titulaire au département de psychologie à l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux et l'identité, et je n'ai pas tout dit. Aujourd'hui, donc, votre sujet, les politiques d'intégration ont-elles une influence sur les préjugés? Grande question.
Oui, puis j'ai préparé cette chronique avec Mathieu Pelletier-Dumas, qui est conseiller principal à la recherche et chargé de cours à l'Université de Montréal. Donc, je me suis amusée, Hélène, cette semaine.
Ah oui?
Et j'ai écrit cette chronique avec l'aide de ChatGPT.
Ah, ChatGPT.
Le fameux ChatGPT. Donc, pour un rappel, c'est un robot conversationnel accessible sur Internet qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des réponses à des questions ou à des instructions. J'étais curieuse de savoir, est-ce que j'allais gagner du temps? Et deux, est-ce que ma chronique allait être d'une meilleure qualité?
Bon, on va tout savoir ça à la fin de votre chronique, j'imagine.
Peut-être pas tout, mais on va essayer de répondre à ces questions-là. En fait, la première, je vais la répondre à la fin. Et la deuxième, qui est est-ce que ma chronique est d'une meilleure qualité? Bien, ça sera à vous et aux auditeurs et éditrices de répondre.
Donc, une bonne façon de nous d'attirer notre attention. Hein? On n'aura pas le choix de bien vous écouter.
Oui, bien m'écouter, puis vous ne saurez pas nécessairement quand c'est moi qui ai écrit quelque chose ou quand c'est ChatGPT. Mais toute cette analyse-là, on le fera lors de la prochaine chronique.
D'accord.
Mais faisons cette expérience ensemble maintenant. Donc, lors des deux chroniques précédentes, j'ai abordé le processus identitaire des personnes immigrantes lorsqu'elles arrivent dans un nouveau pays. Nous avons vu que le processus comporte plusieurs étapes et aussi que les stratégies d'acculturation ou d'adaptation peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont mieux réussir à s'intégrer et à s'adapter, alors que d'autres vont plus s'isoler et vont moins interagir avec les membres qui appartiennent à la société d'accueil. Dans cette chronique, je pose la question suivante. Quelles sont les politiques nationales d'intégration ici au Québec et ailleurs? Et quelle est leur influence dans les relations entre tous les Québécois, peu importe leur origine? Donc, les politiques d'intégration ont fait l'objet d'un débat intense ces dernières années, alors que de nombreux pays cherchent à trouver des moyens efficaces d'intégrer les nouveaux arrivants dans leur société. Nous allons examiner les politiques d'intégration des personnes immigrantes adoptées dans différents pays en identifiant quels sont leurs avantages et leurs limites. Nous parlerons aussi du cas spécifique du Québec et de sa politique de l'interculturalisme.
Non. Alors, Roxane, est-ce que vous pouvez nous résumer les principales politiques d'intégration?
Tout d'abord, je commence par l'assimilation. L'assimilation, c'est basé sur l'idée que tous les nouveaux arrivants doivent abandonner leur culture d'origine et adopter la culture dominante du pays d'accueil. Cette politique était la politique nationale au Canada jusque dans les années 70 et l'est encore aujourd'hui dans plusieurs pays comme l'Allemagne et les États-Unis. Elle vise à effacer les différences culturelles afin de favoriser l'homogénéisation de la société. Ce type de politique est considéré depuis longtemps comme oppressive et non inclusive. Donc, avec l'assimilation, les personnes immigrantes sont invitées à laisser leur valise culturelle. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui arrive à la frontière avec une valise culturelle. Donc, sont invités à la laisser de côté et en prendre une toute nouvelle lorsqu'ils arrivent dans un nouveau pays.
Et est-ce que la politique d'intégration est la même au Québec et au Canada?
Au Canada, c'est le gouvernement fédéral qui établit les normes et les programmes d'immigration pour l'ensemble du pays. Mais chaque province a cependant la responsabilité de gérer ses politiques d'immigration et d'intégration. Donc, au fédéral, les politiques d'immigration, c'est le multiculturalisme. Le multiculturalisme, ça repose sur l'idée que la diversité culturelle doit être valorisée, mise au premier plan et que les nouveaux arrivants doivent être encouragés à préserver leur culture d'origine, tout en s'intégrant évidemment à la société du pays d'accueil. Cette politique a été saluée internationalement pour sa capacité à favoriser la tolérance et le respect des différences culturelles. Donc ici, avec le multiculturalisme, on reprend l'image de la valise culturelle. Un immigrant garde sa valise en arrivant au pays, mais il en prend aussi une nouvelle s'il le souhaite. Donc, il y a deux valises. Au Québec, la politique d'immigration est axée sur l'intégration linguistique des nouveaux arrivants. C'est pour ça qu'on parle d'interculturalisme, dont l'objectif est de favoriser les échanges, le dialogue entre les cultures autour d'une langue commune, le français. L'interculturalisme, comme le multiculturalisme, valorise la diversité culturelle et aussi encourage les échanges entre les cultures. Donc, au Québec, avec l'interculturalisme, les immigrants peuvent conserver leur valise culturelle, mais ils doivent y intégrer le français. Donc, bien que les politiques d'intégration au Québec et au Canada aient des similitudes, notamment en lien avec l'acceptation de la diversité, l'ouverture, il existe cependant des différences importantes en ce qui concerne, comme on l'a souligné, la promotion de la langue commune, donc le français au Québec. Cependant, depuis quelques années, il y a un mouvement marqué au Québec vers des politiques de type assimilationniste. On se rappelle la Charte des valeurs, la loi 21.
Oui. Et il est souvent question de laïcité dans les politiques d'immigration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi exactement la laïcité?
En fait, il y a deux types de laïcité. Puis son origine, ça vient surtout de la France, on se souvient. Il y a une politique d'intégration qui a été développée dans ce pays qui repose sur la séparation de l'Église et de l'État. Donc, c'est la laïcité historique. Elle exige que les institutions publiques soient neutres vis-à-vis les religions et ne favorisent aucune religion en particulier. Autrement dit, la laïcité historique stipule que peu importe la religion des citoyens, tous et toutes sont égaux devant la loi. Et selon cette conception de la laïcité, toute personne peut porter un symbole religieux, peu importe son rôle dans la société, qu'il soit un élève, un enseignant ou un policier. Le deuxième type de laïcité, c'est la nouvelle laïcité. Cette politique, c'est une transformation ou bien une radicalisation de la laïcité historique qui l'a aussi remplacée en France. Alors que pour la laïcité historique, le premier type, l'État doit être laïque. Pour la nouvelle laïcité, l'État et les citoyens qui reçoivent des services de l'État doivent aussi être laïques. Donc, cette politique stipule que la religion doit se pratiquer en privé et que les signes religieux devraient être interdits en public. Cette transformation de la laïcité implique, par exemple, que des fonctionnaires de l'État, par exemple les enseignants, ou des élèves dans les écoles ne peuvent pas porter de signes religieux.
Et ça crée beaucoup d'insatisfaction. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Roxane, sur la recherche concernant les politiques d'intégration et leur impact sur le vivre ensemble?
La recherche dans ce domaine a montré que les politiques nationales peuvent avoir des impacts importants et significatifs sur le vivre ensemble. Il y a eu plusieurs chercheurs qui se sont penchés sur cette question, incluant Richard Bourris, un professeur à l'Université du Québec à Montréal, et ses collègues qui ont évalué les politiques d'intégration qui mettent l'accent sur la diversité et l'égalité des chances pour tous les groupes ethniques et a montré que cela a un effet sur le vivre ensemble. En fait, l'ensemble des travaux montrent que les politiques qui sont davantage ouvertes, donc on les appelle les politiques dites ouvertes, comme la laïcité historique, l'interculturalisme ou le multiculturalisme, sont moins liées aux préjugés. En revanche, les politiques privilégient l'assimilation culturelle, c'est-à-dire l'obligation que les personnes immigrantes ont de renoncer à leur culture d'origine pour s'adapter à la culture dominante ont un effet négatif sur le vivre ensemble. Ici, on parle de la nouvelle laïcité ou l'assimilation, qui sont davantage liées à des préjugés. Il y a un autre chercheur, Serge Guimond, qui est professeur à l'Université Clermont-Ferrand en Auvergne, en France, qui ont aussi montré que l'attitude des membres de la société d'accueil envers les personnes immigrantes joue un rôle important dans le succès des politiques d'intégration. Par exemple, il a publié une étude importante dans la revue Journal of Personality and Social Psychology, qui est la meilleure revue en psychologie sociale révisée par les pairs, dans laquelle il a comparé 4 pays, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, puis il a montré que les préjugés envers les personnes immigrantes sont plus faibles dans les pays ayant des politiques de type multiculturel comparativement aux pays ayant des politiques assimilationnistes. Par exemple, les Américains avaient plus de préjugés que les Canadiens. Donc ici, c'est plus multiculturel. Puis il y a les travaux, enfin, de mon laboratoire de recherche aussi qui soutiennent cette position. On avait évalué 1 000 Français et 1 000 Québécois Puis on a montré que plus les participants perçoivent aussi que les politiques en matière d'immigration de leur pays, soit la laïcité et l'interculturalisme au Québec, sont bien définies et cohérentes, plus les gens vont soutenir ces politiques au niveau personnel aussi et conséquemment avoir moins de préjugés et même plus de bien-être.
On veut la cohérence et on veut bien comprendre ce dont il est question.
Exactement. Puis quand on le comprend mieux, puis quand c'est aussi une politique qui est plus ouverte comme l'interculturalisme ou la laïcité historique, bien, les gens vont avoir moins de préjugés au final.
Mm-hmm.
Puis en conclusion, Hélène, je dirais que l'intégration des immigrants, c'est pas seulement l'affaire des immigrants, de leur propre processus identitaire et de leur intégration dans la société. C'est aussi l'affaire de la société qui les accueille. Les politiques sont importantes et exercent une influence certaine sur la majorité et plus largement sur le vivre ensemble.
Je vois que vous arrivez à la fin de votre chronique, donc je vous pose la question soulevée au début. Est-ce que vous avez mis moins de temps pour préparer cette chronique, Roxane, avec ChatGPT?
Non, Hélène, je dois vous dire que cette chronique-là m'a donné beaucoup de maux de tête et que le temps passé a dû quadripler.
Oh!
Et je vous expliquerai la semaine, dans un mois, chronique.
Ah oui,
il va falloir attendre un mois pour que je vous explique le processus. Mais la question, Hélène, est-ce que c'était d'une meilleure qualité?
Je sais pas exactement. Il y avait des réponses qui avaient un style un peu robotisé. Mais le contenu semblait juste. Et puis, vous avez travaillé aussi là, en collaboration avec le robot. Et quand vous dites que l'étude publiée dans GPS, c'est la meilleure revue en psychologie sociale, ça vient de vous ou
ça vient de moi. Bon. Il y a beaucoup d'éléments qui venaient de moi. Ouais. J'ai dû retravailler beaucoup, mais je vais tout vous expliquer
oui,
ça.
Oui, on a bien hâte le 24 mai. Comme je ne suis pas une spécialiste comme vous, je peux dire que je n'y ai vu presque que du feu. Alors, à suivre. Merci beaucoup, Roxane de la Sablonnière.
Merci, au revoir.